Nous lisons dans Exode au chapitre 19. Exode 19, 5 à 6. Exode 19, 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Il dit, maintenant, si vous entendez ma voix, vous allez et vous obéissez à mon alliance, vous allez être mon peuple à moi. Même si il y a beaucoup de peuples sur la terre, vous, vous allez être mon peuple à moi. Et nous connaissons l'attachement des peuples à leur nation. Il suffit de jeter un coup d'œil quand il y a les matchs de football, les Jeux olympiques, quand il y a des problèmes de guerre. Nous voyons comment les gens sont attachés à leur nation. Il y a des gens qui envoient leurs enfants. Peut-être certains ont deux garçons, ils envoient les deux garçons à la guerre pour sauver le pays. Les gens sont attachés à leur peuple. Nous voyons comment, quand les gens se retrouvent à l'étranger, ils font un club de Français, un club des Américains. Ils sont attachés à leur peuple. Et Dieu dit, vous, vous allez être mon peuple. Donc soyez attachés à notre alliance, à notre nature. Vous êtes le peuple de l'Éternel. Il y a une différence entre être juste sauvé et faire partie du peuple de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui sont juste sauvés. C'est-à-dire, ils ont pris le salut que Jésus a proposé, ils l'ont accepté, mais ils ne vivent vraiment pas en tant que peuple de Dieu. Vous savez, le salut, c'est comparé au fait de sortir d'Égypte. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte et il y a eu la Pâque, donc l'agneau qui a été sacrifié. Le sang a été posé sur les linteaux pour les sortir d'Égypte. Et cet agneau symbolise Jésus qui a été sacrifié afin que nous soyons pardonnés de nos péchés et que nous sortions du monde. Mais les choses ne se limitent pas là. Dieu a sorti les enfants d'Israël d'Égypte pour faire de son peuple à lui avec une nouvelle nature. C'est pourquoi il leur donne la loi. C'est cette loi-là qu'il a donnée à Moïse qui allait faire que ce soit son peuple. Ce n'est pas juste le fait de sortir d'Égypte. Donc là, nous sommes dans Exode 19. Dieu s'apprête à leur donner la loi et il dit, je vous ai sorti pour faire de vous mon peuple. Donc on peut être sauvé et vivre en client avec Dieu. Vivre comme un touriste avec Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il nous a sauvés pour former un peuple nouveau. Un peuple nouveau, avec des objectifs nouveaux, une marche nouvelle. Un des problèmes que nous rencontrons dans les milieux chrétiens, c'est que beaucoup vivent sans être conscients que nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple. Est-ce que vous pensez vraiment que pendant la guerre, les gens qui font partie de la France vont commencer à se disputer pour un problème de Breton, un problème d'être Alsacien ou quoi que ce soit? Non, ils sont Français. Le problème, c'est d'abord que la France gagne. Tout le reste, on verra après, mais que la France gagne d'abord. S'ils commencent à se disputer pour des problèmes personnels, c'est la défaite de la France. Priorité à la nation. Et nous, nous faisons partie maintenant d'une nation nouvelle. Et les gens n'en tiennent pas trop compte. Et à cause de ça, nous voyons certaines vies chrétiennes tourner en rond parce que les gens n'ont pas pris conscience qu'on nous a sortis du monde pour former un peuple. Nous voyons des gens se disputer pour des bêtises. Il n'y a pas la manifestation de la logique que nous sommes le peuple de Dieu. Vous savez, je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui savait qu'il faisait partie du peuple de Dieu, c'est Paul. Paul était en prison. Mais pendant qu'il était en prison, il y a des prédicateurs, donc des chrétiens, des gens qui enseignent la parole de Dieu, qui étaient libres, qui n'étaient pas en prison, mais qui critiquent, non seulement ils enseignaient la parole de Dieu, mais ils critiquaient aussi Paul. Mais Paul, qu'est-ce qu'il dit? Paul, il dit, c'est vrai qu'il y a des gens qui enseignent pas toujours avec de bonnes motivations. Mais peu importe, le plus important, c'est qu'ils parlent de Jésus. Et je suis content. Voilà quelqu'un qui avait pris conscience qu'il faisait partie d'un peuple. Donc quand quelqu'un fait officiellement partie de ce peuple-là, Paul respectait cette personne, aimait cette personne et voulait que cette personne prospère, même si cette personne critiquait Paul. Il dit, il y a des gens qui prêchent, qui nous critiquent à gauche, à droite, mais l'essentiel, qu'ils prêchent Jésus, et je m'en réjouis, alors que lui, il était critiqué. Il prenait conscience que, même si cet homme-là me critique, il fait partie de mon peuple. Voilà la différence. Il y a des gens qui n'ont pas pris conscience que nous formons un peuple, le peuple de Dieu. Je crois qu'il y a des micros qui sont allumés là. Il avait pris conscience qu'il faisait partie du peuple du Seigneur. Je vais vous donner un autre exemple de quelqu'un qui avait pris conscience qu'il faisait partie du peuple de Dieu. C'est David. David avait pris conscience de cela. David a été un roi. Il a été un roi alors qu'il y avait déjà un roi qui était en poste. Mais le prophète Samuel, il vient, il met l'huile sur David, il dit, c'est maintenant toi qui es roi. Et à partir de cela, David est devenu le défenseur de son peuple et il a battu Goliath. Et nous allons lire cette histoire-là de la victoire sur Goliath, liée au fait que David avait pris conscience que c'était le peuple de Dieu qui était défié et non pas juste Israël comme ça. Israël, c'était le peuple de Dieu. Et David, à cause de ses victoires et à cause de son succès, il est jalousé par le roi qui était en poste. Saül, et Saül cherche à le tuer. Mais quand Saül cherche à tuer David, il n'est pas tout seul. Il a des généraux avec lui. Il a des soldats avec lui. Finalement, après bien des années, Saül finit par mourir et David devient roi. Et quand David devient roi, alors que ces gens à lui veulent faire les règlements de compte, tuer les gens qui le combattaient autrefois sous les ordres de Saül, David dit, non, on n'a pas à combattre ces gens parce que c'est nos frères. C'est vrai qu'il y a quelques mois, il y a quelques années, ils ont voulu nous tuer, mais maintenant que la guerre est finie, nous n'allons pas les combattre, nous n'allons pas nous venger parce que c'est notre peuple, c'est nos frères. Voilà quelqu'un qui, pendant plus de 10 ans, a été poursuivi par ces généraux-là. Ces généraux ont voulu le tuer. Mais David a dit, mais ils ont agi sous les ordres de leur roi. Ils ont agi sous les ordres de Saül. Mais ces gens sont mes frères, je ne peux pas les tuer. Je ne me venge pas. Et il les a intégrés dans son armée. Il avait pris conscience qu'il y a un peuple de Dieu. Je fais partie de ce peuple. Et si je fais partie de ce peuple, donc je dois accepter ce peuple, je dois aimer ce peuple, je dois travailler avec ce peuple parce que nous avons un roi, le roi, le Dieu créateur qui a fait les cieux et la terre, il doit nous conduire. Nous lisons le psaume 95. Psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, c'est ce que moi je dis encore aujourd'hui. Verset 8, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous pouvez encore écouter sa voix aujourd'hui, Dieu, par Jésus, a fait de nous son peuple. Et peut-être nous, on a du mal à voir ça clairement parce qu'on est un peuple formé de toutes les nations. Il y a des chrétiens coréens, des chrétiens chinois, des chrétiens algériens, marocains, sénégalais. Mais nous formons un peuple, ce peuple qu'on appelle l'Église, le corps de Christ. Ce peuple formé des enfants de Dieu nés de nouveau. Nous ne nous connaissons pas tous clairement, mais celui qui confesse Jésus comme son Seigneur et Sauveur fait partie de ce peuple-là. Voilà ce que nous devons considérer comme étant le peuple de Dieu. Et là, il s'agit du premier peuple de Dieu, Israël. Et le psaume 95 dit, « Il est notre Dieu ». Il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger. Donc nous sommes comme un troupeau. Et Dieu est le berger. Il nous conduit. Il faut entrer dans cette révélation-là. Il faut entrer dans cette vérité. Et le bonheur viendra sur toi quand tu réaliseras que nous sommes un peuple appartenant à Dieu, le peuple de Dieu. Dieu le Créateur est son berger. C'est beau. Il y a plein de choses que nous disons aux gens qui se disent chrétiens. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire cela. Parfois, ça prend du temps parce que tout simplement, il n'y a pas encore une prise de conscience du fait que nous sommes le peuple de l'Éternel. Il n'y a pas cette prise de conscience parce que on n'oblige pas les gens, lorsqu'il y a des matchs de football, à se peindre en bleu, blanc, rouge, à prendre des drapeaux de la France. Ils le font naturellement parce que c'est leur nation, naturellement. Mais pourquoi, quand il s'agit de Dieu, on doit mettre la pression sur les gens? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis que le chrétien, naturellement, devrait se joindre à d'autres chrétiens pour prier parce que c'est son peuple. Je n'ai vu nulle part. En plus, les billets de matchs de football sont chers. Il y a des gens qui quittent la France pour aller supporter la France au Brésil, bien-aimé. 10 heures de vol. 10 heures de vol. Payer l'hôtel, la nourriture. Mais parce qu'ils aiment la France, ils aiment leur pays. Et dans les choses de Dieu, devrions-nous mettre la pression sur les gens? Non. On reconnaîtra qui est qui à travers sa façon de travailler dans l'œuvre de Dieu. Et si tu es vraiment du peuple de Dieu, à un moment donné, quand tu t'écartes, ça ne va pas aller. Tu ne t'en sentiras pas vraiment à l'aise. Et parfois, c'est les gens qui vont te rappeler pour te dire, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es un Français? Ça, ce n'est pas pour les Français ici. Va là-bas. Un jour, les gens vont te rappeler, mais toi, un Américain, tu fais quoi dans ce coin? Même quand tu t'éloignes, même les non-Français, les non-chrétiens vont te dire, mais nous, on ne t'a pas connu dans ce genre de choses. Retourne dans ton peuple. Donc, même quand tu veux ce qu'on appelle t'intégrer, il y a mon frère qui est aux États-Unis. Nous, quand on l'entend parler anglais, on se dit, mais on ne comprend presque pas grand-chose, tellement il parle vite. Mais il m'a dit, mais non, mais sur place, les gens, les Américains de naissance, quand ils l'entendent lui parler, ils sentent l'accent quand même africain. Alors que nous, on ne sent pas du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si tu veux t'intégrer à 100%, on va te rappeler, juste par ta façon de parler, d'où tu viens. Les gens sauront. C'est une réalité. Faire partie d'un peuple, c'est une réalité. Les gens te diront, mais à ta façon de parler, on a l'impression que tu fais partie de tel peuple. Oui, mais j'ai quitté ce peuple, mais non, mais ce peuple-là a besoin de toi, retourne là-bas. Les gens te le diront. C'est comme ça qu'on a voulu coincer. Pierre a voulu se cacher, mais on l'a coincé par des gens. On lui a dit, mais par une femme. Mais toi, on dirait que tu fais partie des gens qui étaient avec Jésus. Il a voulu se cacher. Il a renié le Seigneur. Le coq a chanté 3 fois. Pierre a pleuré et il est revenu. Et peut-être toi aussi, tu veux te cacher. Mais au fond de toi, tu sens que tu es de Dieu, tu es du peuple de Dieu. Mais il y a beaucoup de raisonnements qui viennent dans la tête. Ah oui, mais les églises, c'est des sectes. Ah oui, mais ils exagèrent. Ah oui, mais... Mais ces raisonnements-là, je peux te dire, ils peuvent être des millions de raisonnements. Mais la soif de ton cœur, l'attraction de Dieu dans ton cœur va vaincre tous ces millions de raisonnements. Donc, Satan a beau dire, mais oui, mais les églises aussi, mais est-ce que Jésus a vraiment existé? Il a beau te poser toutes ces questions pour te troubler. Si tu es vraiment simple, si tu es vraiment de Dieu, ces questions-là seront vaincues par l'amour qui est au fond de toi. Au fond de toi, tu connais la vérité. Au fond de toi, tu sais que Dieu est bon. Au fond de toi, tu sais que Dieu est créateur. Parce que tout ce que nous voyons ne vient pas du hasard. Au fond de toi, tu sais que Dieu existe. Au fond de toi, tu sais que... Qu'est-ce que tu as reproché à Jésus? Rien. Au fond de toi, tu connais, parce que nous tous, même quand on n'était pas encore chrétien véritable, on connaissait l'histoire de Jésus. Et nous savons que nous n'avons rien à lui reprocher. Il n'a fait que aider les pauvres, guérir les malades, sauver les pécheurs. Et il est mort à notre place. Et il est ressuscité le 3e jour. Il a calmé la tempête. Nous connaissons tout cela. Et au fond de nous, on se dit non, voilà l'homme qu'il faut suivre. Voilà le berger de mon âme. Mais il y a les choses de la terre qui veulent se mettre en obstacle. Mais celui qui sait s'humilier, celui qui sait, qui va vraiment dans la profondeur, il sait que le berger de notre âme, ça doit être Jésus seul. Et Jésus veut faire de nous un peuple. Il faut cesser d'être un chrétien client où tu viens acheter quelque chose à l'église, acheter quelque chose auprès de Dieu. Ou bien s'il faut le prendre gratuitement, tu viens pour prendre quelque chose, chrétien consommateur. Non, il faut qu'on soit le peuple de Dieu. Quand tu es le peuple, tu fais partie du peuple français, quand on va faire la conscription, quand on va appeler les gens pour les envoyer en guerre, tu vas répondre oui, parce que tu fais partie du peuple français. On ne te propose même pas l'argent, mais tu réponds. Parce que c'est ta nature, c'est ton identité. Et nous devons vivre. Il faut que cela revienne, cette relation avec Dieu, comme faisant partie d'un peuple. C'est important. Nous lisons le livre de Jérémie au verset 35. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Verset 2. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je prie Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaseja, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Pourquoi? Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni vigne, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire que chacun revienne de sa mauvaise voie. Amendez vos actions, n'allez pas près d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, voici je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem, tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Voilà l'histoire de Jonadab et des Récabites. C'est une tribu dans le peuple d'Israël dont le père, donc l'ancêtre, avait donné les instructions suivantes. Vous ne prendrez jamais du vin. Et vous ne construirez jamais, vous habiterez sous des tentes. Et maintenant, Dieu dit à Jérémie, prends ces gens-là, amène-les dans un endroit pur, dans un endroit, dans le temple de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Prends ces gens, amène-les dans la maison de l'Éternel, et comme ils vont être dans la maison de Dieu, ils vont avoir beaucoup de confiance. Propose-leur du vin. Donc vous imaginez, un homme de Dieu qui te propose quelque chose. Donc, c'est censé être bon. Alors, regarde leur réaction. Observe leur réaction. C'est ce qui a été fait. On a amené des fils de Jonadab, des Récabites. dans le temple, dans la maison de Dieu, on leur propose du vin par l'homme de Dieu. Mais ils disent quand même non. Alors que c'est l'homme de Dieu qui leur propose. Ils disent, mais non, on ne prend pas. Dieu, et il leur demande, mais pourquoi? Mais parce que notre ancêtre, Jonadab, nous a recommandé de ne jamais boire du vin, nous, nos enfants, nos fils, nos femmes, et de ne pas construire, mais d'habiter sous des tentes. Et nous obéissons à notre ancêtre. Et Dieu dit à Jérémie, mais écoute ce que disent ces gens. Donc juste parce que c'est leur ancêtre qui leur a parlé, ils obéissent. Et moi qui suis le Créateur, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, je vous parle depuis le matin jusqu'au soir, mais vous n'obéissez pas. Mais voyez l'exemple des Récabites. On les a mis en condition pour qu'ils se disent, bon, comme c'est l'homme de Dieu qui nous propose quand même du vin, même si Jonadab nous a dit parler, ça fait longtemps, bon, on va quand même goûter. Non, ils ont refusé. Et vous, je vous parle depuis le matin. Bien-aimés, depuis le matin, Dieu nous parle dans la Bible. Depuis longtemps, Dieu nous parle, mais peu de personnes acceptent de vivre en peuple de Dieu, de vivre selon la parole de Dieu. Peu de personnes. Peu de personnes. Les gens mélangent leur vie humaine à leur vie spirituelle. Non, la Bible dit nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On veut donner aux enfants l'éducation biblique et l'éducation du monde en même temps. Non, ça ne peut pas aller. On veut leur donner les valeurs bibliques et les valeurs du monde en même temps. Ça ne peut pas aller. Le Seigneur dit, depuis le matin, je donne ma parole. On n'a pas encore pris conscience. Pourquoi? Parce que le lien qui unit Jonadab à l'ancêtre, à ses petits-fils, arrière-arrière-arrière-petits-fils, c'est un lien fort d'appartenance à un peuple, d'appartenance à une ligne de conduite, parce qu'un peuple, ce n'est pas seulement un nom, la France, il y a une ligne de conduite. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui n'écoutent pas les recommandations du ministère des Affaires étrangères français, quand le ministère dit il ne faut pas aller dans tel coin, il ne faut pas aller dans tel pays, c'est dangereux. Les gens qui n'écoutent pas, ils se font otages. Après, à un moment donné, il faut les libérer encore. Quand les Français sont dans un pays et qu'il y a guerre dans ce pays, il y a le consulat français, l'ambassade qui envoie des textos à tout le monde. On se retrouve à tel endroit. Les gens qui n'écoutent pas se retrouvent hors périmètre de sécurité, et ils peuvent se faire tuer, mais ceux qui obéissent à l'ambassadeur, ils se retrouvent protégés par les soldats français. Donc ceux qui n'écoutent pas finissent toujours mal. Quand on dit pour voyager, il faut avoir tel document, c'est le ministère des Affaires étrangères qui dit, si tu n'écoutes pas, tu vas te retrouver bloqué aux frontières. Et Dieu a parlé par rapport à beaucoup de choses dans sa parole, la Bible. Et peu de gens acceptent ça comme étant la parole de Dieu, la parole de leurs ancêtres, la parole de leur peuple. Peu de gens, peu de gens. C'est le moment de se considérer comme le peuple de Dieu. Tu ne fais pas les choses parce que quelqu'un te met la pression, mais tu fais les choses parce que ça fait partie de ton peuple. C'est la manière de ton peuple. C'est comme ça qu'on vit. Quand on voit les gens manger, même à l'étranger, on peut faire la différence entre un Américain et un Français. On sait que l'Américain, ça sera la grosse quantité, le gros hamburger, avec beaucoup de graisse dedans, sans entrée ni sortie, avec un Coca-Cola à la fin, alors que le Français, ça va être une entrée. Un quoi, un milieu. Jamais prendre. L'Américain va prendre le café dès le départ, le Français va prendre le café à la fin de tout. Donc on peut voir en fonction de la nourriture, la façon de manger, ça c'est un Américain, ça c'est un Français. Le Français va être choqué que tu prennes un bon repas avec du Coca-Cola, mais. L'Américain va demander son coca même dans un restaurant 3 étoiles. Il demande quand même son coca. À partir de là, on peut savoir, là, c'est un Américain. Donc, il vit comme son peuple. Là, c'est un Français, il vit comme son peuple. C'est ça, les récapites. Ils vivaient comme leur ancêtre, Jonadab. Mais nous, nous avons un ancêtre. C'est l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il nous a donné une ligne de conduite qui est dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et les gens qui suivent cette ligne de conduite, ils sont heureux, ils avancent. Et ils vivent ça d'une manière naturelle, parce qu'ils considèrent que c'est identitaire, comme on dit aujourd'hui. C'est leur identité. Ce n'est pas quelque chose qu'ils doivent faire pour se prouver qu'ils sont chrétiens. C'est leur identité. Mais quand tu commences à vouloir faire pour te prouver à toi-même que tu es chrétien, c'est là que ça devient difficile. Tu veux venir à la prière pour te prouver que tu es chrétien. Tu veux faire telle chose, évangéliser pour te sentir chrétien. C'est là que ça devient difficile. Mais si tu te dis, Seigneur, je fais partie de ton peuple. Et quelles sont les instructions? Le Seigneur va te donner les instructions et la force en même temps. Mais il veut que tu réalises que tu fais partie de son peuple. Tu es dans son peuple. Tu es dans sa famille. Il veut que tu réalises ça fortement. C'est important, bien-aimé. Beaucoup de blocages ne sautent pas parce que les gens ne font pas encore partie du peuple de Dieu. Ils sont peut-être sauvés parce qu'on est sauvés par grâce, mais ils ne réalisent pas qu'ils doivent vivre en peuple de Dieu. Surtout que nous vivons un temps où Internet est devenu champion pour isoler les gens. Les gens peuvent écouter les prédications par Internet, suivre des cultes par Internet. Ils sont tout seuls. Ils ne font plus partie du peuple de Dieu, mais ils sont peut-être quand même sauvés. Mais c'est encore, il y a des doutes. Puisqu'on ne peut pas être sauvé et être loin du peuple de Dieu. Il y a un souci. Et Internet isole les gens. Ils pensent qu'ils peuvent vivre sans Dieu, sans le peuple de Dieu plutôt. Mais vivre sans le peuple de Dieu, c'est vivre sans Dieu. Il y en a qui vivent sans pasteur aujourd'hui, sans responsable. Sous prétexte qu'ils ont écouté un enseignement qui critiquait le fait qu'il y ait des responsables alors que la Bible est claire là-dessus. Bien aimé, les instructions de Jonadab, c'était clair. Il ne fallait pas boire du vin, il ne fallait pas construire, il ne fallait pas planter. Les instructions étaient claires. Les instructions de la parole aussi sont claires. Mais quand on a un cœur tortueux, ça devient flou alors que c'était clair, très clair. Éphésiens 4, 11 dit que Dieu a établi des pasteurs, des docteurs, des apôtres pour nous conduire. Hébreux 13, 17 dit « Obéissez à vos conducteurs ». Il est question des conducteurs dans la parole de Dieu. Et il y a des gens aujourd'hui qui ont décidé de vivre sans conducteur. Et ils appellent que quand ils ont des bobos maintenant, ils ont des problèmes, là ils appellent. Mais pourquoi toute ta vie tu vis sans conducteur? C'est quand tu as des difficultés que tu appelles, tu cherches un conducteur quelque part. Mais non, il y a un souci. C'est des gens qui n'ont pas pris conscience du peuple de Dieu, de la réalité du peuple de Dieu. Nous sommes un peuple. Dans un peuple, dans une nation, il y a un roi, il y a un président. Nous avons pour roi le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Et ce roi-là a une organisation. A des autorités dans son royaume. Tout ça est organisé, ce n'est pas à la légère. Il faut prendre conscience de ça. Et nous sommes un grand peuple disséminé dans le monde entier. Donc tu ne dois pas croire que tu es le seul chrétien sur la terre, c'est toi seul qui es dans la vérité. Il y a d'autres enfants de Dieu ailleurs. Même à côté de toi, à 5 km, il y en a, mais tu ne les connais peut-être pas, mais il y en a. Il faut prendre conscience de la réalité du peuple de Dieu, vivre en peuple de Dieu. Et c'est là qu'on verra la gloire de Dieu. Nous sommes son peuple, dit Exode 19, 5 à 6. Je vous ai mis à part pour faire de vous mon peuple. Il faut entrer dans cette révélation-là et vivre pour la nation, vivre pour le peuple. Vous savez, les gens qui, pendant les guerres, envoient leurs fils se faire tuer, mais c'est pour la nation. Ils pouvaient cacher leurs enfants. Ils disent, mais si je cache mes enfants, nous perdons la guerre. Ils seront quand même tués de toute façon. Donc autant sauver la nation. Et aujourd'hui, beaucoup se cachent, vivent une vie égoïste, une vie isolée, avec leurs propres désirs. Et ils viennent juste pour chercher des solutions à leurs problèmes dans l'église. juste pour régler certaines situations. Non, nous devons vivre en peuple de Dieu. On sait que tel jour, le peuple de Dieu se retrouve tel part. Nous savons que Dieu a tel objectif pour le peuple de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il faut que je vive cela. Il a plusieurs objectifs. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il faut que je vive cela. Il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Je suis son peuple. Je dois vivre cela. Le peuple, ça veut dire le représentant en même temps. L'ambassade de la France aux États-Unis, c'est considéré comme la présence de la France aux États-Unis. Les Français aux États-Unis représentent la France. Et quand vous entendez les Américains parler, dès qu'il est question d'un Français aux États-Unis, on sait que les Français là-bas font du bon boulot. Ils donnent une bonne image du pays. Nous représentons notre Dieu. Nous représentons notre pays, le ciel. Il faut en tenir compte aujourd'hui. Il ne faut pas faire les choses comme si on te forçait à faire quelque chose. Tu représentes Dieu. Tu es son peuple. Tu fais partie de son peuple. Où doit se trouver le peuple de Dieu? Que doit faire le peuple de Dieu? Ça doit être l'objet de tes réflexions. Quel est le prochain rendez-vous du peuple de Dieu? C'est ça. C'est ce à quoi tu dois réfléchir. Conduit par le berger lui-même. Nous lisons encore la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 17. Isaïe dit à David, son fils, à partir du verset 17. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour les frères, tes frères, cet épha de grains rôtis et ses 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébenthe, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Donc Goliath mesurait 3 mètres. Et rien que sa lance devait peser environ 30 kilos. Son bouclier plutôt. 3 mètres. Et cet homme avait lancé un défi aux enfants d'Israël qu'il trouve un homme qui vienne se battre contre lui. Celui qui gagnera consacrera la victoire de son pays en même temps. Et ça faisait 40 jours qu'il demandait cela et les enfants d'Israël tremblaient. Et David arrive au 40e jour. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille. Et il libérera la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera la honte de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin. » De cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtu d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches comme moi avec l'épée, contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. » Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre. Et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen. Sans avoir d'épée à la main. Juste parce qu'il a pris conscience de quoi ? Il a pris conscience du fait que le Philistin, qui mesurait 3 mètres, était en train d'insulter le peuple d'Israël. Mais qui est le peuple d'Israël ? C'était le peuple de Dieu. Donc David a fait la relation entre son pays et son roi, qui est Dieu. Il a dit, mais non, s'il injurie notre peuple, en réalité, il injurie le Dieu vivant. Mais qui peut être plus fort que le Dieu vivant ? Automatiquement, David a reçu la mission d'en finir avec ce Philistin venant d'en haut. Parce que David était le seul parmi tous ces gens-là à prendre conscience qu'ils étaient le peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'appelle à te réveiller aujourd'hui, à prendre conscience que tu es le peuple de Dieu. Tu fais partie de ce peuple et que Dieu triomphera toujours de tous les obstacles qui sont devant ce peuple-là. Toujours, puisque c'est lui qui est le berger, c'est lui qui est le roi. Nous faisons partie de son peuple. Faire partie du peuple de Dieu, c'est pas seulement le représenter en obéissant à la loi, en faisant la différence. C'est ainsi que les étrangers pouvaient faire la différence entre eux et Israël par les lois que Dieu avait données à Israël. Mais c'est aussi être sûr de toute forme de victoire. Parce que nous avons un roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais tout commence par chercher d'abord le royaume des cieux, considérer Dieu comme notre roi, nous considérer comme faisant partie de son troupeau, de son peuple. Quand tu le sais, alors tu commences à vouloir être parfait comme lui il est parfait. Tu commences à vouloir aimer les autres comme lui il aime tout le monde. Tu commences à vouloir faire du bien à tout humain, puisque Dieu veut faire du bien à tout humain. Tu commences à parler de Jésus pour sauver les humains, puisque Dieu veut sauver tous les humains. Parce que tu fais partie du peuple de Dieu, tu évites la magouille, tu évites le mensonge, tu évites le péché. Parce que tu fais partie du peuple du Dieu qui a fait les cieux et la terre, et de celui qui ne pêche pas, de celui qui est lumière, qui est bon, qui est amour, qui est vérité. Parce que tu fais partie de son peuple, tu veux que les gens reconnaissent que c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Et donc là, David dit, et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Les gens reconnaîtront que le véritable Dieu, c'est le Dieu des chrétiens. C'est le Dieu, le Père de Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu. Donc tu auras ce souci-là. Quand Paul est arrivé à Athènes, il a vu Athènes, c'est écrit dans Actes des Apôtres au chapitre 17, il a vu toutes sortes d'idoles. Nous lisons dans Actes 17. Actes 17, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu nous enseignes ? » Verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Paul, irrité par le fait que les gens adorent des statues, dit, mais comment toute une ville peut être remplie de statues comme ça? Et il commence à discuter avec les gens pour leur faire comprendre, mais si vos poètes ont dit que nous étions de la race de Dieu, comment nous qui sommes de la race de Dieu, nous pouvons croire que Dieu soit une statue? Comment nous qui sommes du peuple de Dieu, nous pouvons croire que Dieu soit un objet? Alors il leur explique que le Dieu qui a fait les cieux et la terre a choisi un homme pour se révéler à toute l'humanité. Cet homme s'appelle Jésus. Et comment on peut reconnaître cela? Parce que c'est le seul homme à être mort et ressuscité. Donc il a vaincu la mort, c'est le seul. C'est comme ça qu'on peut reconnaître, parce que celui qui a vaincu la mort a tout vaincu sur la terre, parce que le grand problème des humains, c'est la mort. Celui qui a vaincu la mort a vaincu en même temps le péché, le mal, puisque c'est le mal qui produit la mort. Paul était dérangé parce qu'il faisait partie du peuple de Dieu. Il était dérangé de voir que c'est le Dieu des idoles qui est le succès. Lui considérait que ce sont rois qui devaient avoir le succès. C'est ça la réalité. Quand nous avons un président, un roi, et qu'on se retrouve dans un endroit où il y a plusieurs présidents, plusieurs rois, nous allons entourer notre président, nous allons protéger notre président. C'est là où vous voyez que quelqu'un peut être quelqu'un de la droite, mais lorsqu'il reçoit le président dans sa région, dans sa mairie, alors que le président est de gauche, mais il veut que son président soit honoré là où il arrive là. Parce que c'est le président de toute la France. Et Paul regarde, il dit, mais non, mais ça c'est des idoles, ce n'est rien du tout. Celui qui doit être honoré, c'est mon Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre. Et Paul commence à en parler, parce qu'il se sentait peuple de Dieu. Il y a des gens qui prient, Seigneur, donne-moi l'onction pour évangéliser, donne-moi la puissance pour parler de toi. Mais est-ce que tu te sens vraiment peuple de Dieu? Est-ce que tu es inclus dans ça? Cette puissance viendra naturellement, sans forcer. Paul n'a pas demandé pour avoir cette puissance. C'était naturel. Parce qu'il était dans le peuple de Dieu. Ça vient tout seul. Les arguments viennent tout seuls. Parce que c'est Dieu qui inspire. Aujourd'hui, Dieu veut qu'on se comporte comme son peuple. Il nous a posés sur la terre pour sauver toute l'humanité. Il ne nous a pas sauvés pour garder un salut égoïste, vivre notre vie humaine égoïste et attendre, comme dans une salle d'attente, de voyager pour aller au ciel. Non, il nous a sauvés pour le ciel, c'est vrai, mais sur terre, si nous sommes vivants, il nous a sauvés pour former un peuple qui lui sert, qui le serve et qui serve l'humanité en amenant l'humanité au salut. Et donc nous devons nous joindre au peuple de Dieu, travailler avec le peuple de Dieu, pour ce salut que Dieu accorde à toute l'humanité. Il faut prendre conscience de la réalité du peuple de Dieu. Nous devons réaliser que nous sommes les représentants du Seigneur, le miroir qui montre qui est Dieu. Nous sommes son image par notre comportement. Si nous nous comportons mal devant les autres, les gens accuseront notre Dieu. Nous sommes ses représentants. Nous devons, par notre comportement, montrer qui est Dieu véritablement. Et si nous nous faisons autre chose, les gens auront une fausse image de Dieu. C'est le moment de réaliser notre responsabilité de représentants de Dieu, de peuple de Dieu, de représentants de la nation du ciel. C'est nous qui sommes ses représentants. David a pris conscience de ça. Et il a vaincu Goliath. Les amis de Daniel ont pris conscience de ça. Ils ont refusé de se prosterner devant une statue. Et on les a envoyés dans la fournaise ardente. Ils en sont sortis indemnes, sans que le feu les atteigne. Il faut reprendre conscience comme Paul, comme bien d'autres avant nous, qui ont pris conscience qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu ne peut pas perdre la bataille. Le peuple de Dieu ne peut que vaincre. Et quand les mauvaises nouvelles tombent, nous nous souvenons que nous faisons partie du peuple de Dieu. Dieu nous défendra. Quand on nous propose la facilité pour qu'on fasse comme les gens qui ne sont pas du peuple de Dieu, on sent qu'on trahit notre race. Dans le psaume 73, il y a un homme qui était découragé de voir qu'il avait l'impression que les non-chrétiens, les non-croyants, ceux qui ne croyaient pas à Dieu, en Dieu, semblaient être heureux et riches, forts. Et lui qui avait mis tant de passion pour Dieu semblait être pauvre et ayant beaucoup de problèmes. Il a dit lui-même que je faisais une bêtise, je me trompais, parce qu'en réalité, quand je vois bien ces gens-là qui semblent heureux avec leurs millions, ils sont malheureux parce qu'ils prennent la cocaïne, ils sont obligés pour se sentir bien de se maquiller de telle manière, de s'habiller de telle manière, de telle autre manière. Ils sont obligés pour se sentir bien de voir des comptes bancaires remplis ou d'être applaudis. Et il s'est rendu compte que lui qui avait Dieu était mieux. Il était protégé, il était heureux, il était soutenu par celui qui a fait les cieux et la terre. Mais à un moment, il dit que j'ai voulu fléchir. J'ai voulu faillir. En faisant quoi? En imitant les mauvais. Mais quand il a voulu imiter les mauvais, j'ai senti que ce n'était pas de ma race. Vous savez, quelqu'un qui est du peuple de Dieu, quand il est dans le péché, il sait au fond de lui que ce n'est pas pour lui ce genre de choses. Même si la chair est faible, mais il sent que ça, ce n'est pas pour moi. Moi, je ne dois pas vivre comme ça. Et à un moment donné, il va revenir à la voie normale. Bien-aimés, aujourd'hui, nous devons nous rebeller contre notre chair. Nous devons nous rebeller aujourd'hui contre les passions de la terre. Nous rebeller contre l'orgueil qui est dans l'homme. Aujourd'hui, nous devons dire, Seigneur, je veux être comme une brebis conduit par toi. Vivre dans ton peuple comme ton peuple. Accepter ta royauté sur moi. Et avec Jésus, Dieu nous a amenés loin. Une des révélations que Jésus nous amène, c'est quoi? C'est que nous sommes non seulement le peuple de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Il dit dans Matthieu 5, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Maintenant, nous sommes, vous savez, comme un caneton ressemble à un canard. Mais nous, nous devons ressembler à Dieu. C'est ce que Jésus maintenant nous dit. Dans tes objectifs, dans tes projets, est-ce que c'est des projets de Dieu? Est-ce que ça donne la ressemblance à Dieu? Est-ce que ça donne gloire à Dieu? Matthieu 5. Dans Matthieu 6, il dit, quand vous priez, vous dites quoi? Notre Père qui est aux cieux. Avant, les gens, quand ils priaient, ils faisaient des cérémonies à Dieu, en parlant Dieu, Dieu. Il dit, maintenant là, vous pouvez dire notre Père. Dieu, Jésus nous amène encore à un autre niveau. Il dit, c'est votre Père. Alors, puisque c'est mon Père, donc je fais des projets avec lui. C'est moi qui défends son honneur. Quand on avait des professeurs pour nous tirer les oreilles, quand on était à l'école, les gens qui étaient turbulents, ils disaient, mais vous représentez vos familles, c'était pour nous pousser à nous calmer. Quoi. Parce que quand tu pensais, tiens, on se moque de mon père en disant, à cause de moi, ça nous calmait. Le professeur disait, ben, vous savez, hein, le comportement de chacun de vous représente sa famille, hein. Alors même les gens compliqués se calmaient, se disaient, ya, 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 je fais honte à mon père. C'est pas bon. Réfléchissons à cela. Est-ce que ton père est content que tu sois triste alors que lui l'a envoyé son fils à la croix pour toi? Que tu sois dans une logique de défaite, que tu capitules? Non. Pense à ton père. Satan te dit que tu as perdu. Tu es dans la tristesse. Tu as tout perdu. mais pense à ton Père qui t'aime tant et qui a donné son Fils pour toi. Nous sommes en train d'apprendre un chant qui dit « Leaning, leaning on the everlasting arms ». Ça veut dire « me reposant dans les bras éternels de Dieu ». Tu dois te reposer dans les bras éternels de ton Père désormais. Leaning on the everlasting arms. Dans les bras de Dieu. Tu dois arrêter avec une logique de défaite, une logique de tristesse. Il y a aussi un chant qui dit « Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. » Puisqu'il est devenu ton frère Jésus parce que vous avez le même Père. Il faut vivre cela, bien-aimé. Il ne faut pas que ce soit des discours. Et les apôtres vivaient cela. On t'a volé quelque chose. Il faut vivre la réalité des enfants de Dieu. Ton Père a vu parce que ton Père voit tout. Le gardien d'Israël jamais ne dort ni ne sommeille. Il sait qui a volé et il peut te le montrer. Mais s'il te montre, c'est bien. Mais ce n'est pas pour haïr le voleur, c'est pour prier pour le voleur. Mais s'il ne montre pas ça, ce qu'il a vu, il s'occupe de l'affaire parce qu'il est tout puissant. Il faut que ça soit concret. C'est que nous faisons partie du peuple de Dieu. Comme David, pour lui c'était concret. Peut-être que David mesurait 1m60. Mais pour lui c'était du concret. Goliath n'est qu'un petit, puisque notre Dieu, c'est le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Qui est Goliath devant tout ça? 3 mètres, c'est quoi devant celui qui a fait les cieux et la terre? C'est écrit dans la parole de Dieu, Dieu déjoue les desseins des nations. Donc même les complots des pays, Dieu peut déjouer ça. C'est quoi un homme qui mesure 3 mètres? C'est quoi un magicien? C'est quoi le nom d'une maladie? Parce que Dieu est plus puissant que cela. Mais ça nous demande de vivre en peuple de Dieu. Maintenant, en famille de Dieu. En enfant de Dieu. Plus loin encore, il est notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Voilà. Plus loin encore. Nous clôturons avec Philippiens 2. Et après, nous allons chanter « Tu es Dieu ». Philippiens, chapitre 2. Il est écrit dans Philippiens 2, au verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure. Il ne faut pas murmurer. Il faut faire les choses naturellement, par la grâce divine. Parce que c'est Dieu qui produit tout ça. Au fait, il faut s'identifier à lui et lui va produire tout ça. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à prendre conscience que nous sommes ton peuple, que tu es notre Dieu, que tu tiens le monde dans tes mains, que mieux encore, nous sommes tes fils et tes filles. Que nous puissions nous identifier à toi comme le caneton s'identifie à son père le canard. Seigneur, que nous puissions réaliser cela. Et faire les choses sans murmure. Faire les choses dans la simplicité. Ne se laissant pas troubler par de faux raisonnements. Mais dans la simplicité d'un enfant qui ressemble tout simplement à son père. C'est naturel, il n'y a même rien à forcer. Même les gens du dehors vont dire à cet enfant, mais tu ressembles à ton père. Alors Seigneur, que ce ne soit pas une ressemblance apparente par la bouche, mais que ce soit une vraie ressemblance par les actes, par les objectifs. Oh Seigneur, ça fait mal comme Jésus a dit dans Matthieu 9. Il a dit, il voyait le peuple qui marchait comme un troupeau sans berger. Et nous aussi, ça nous fait mal de voir des chrétiens commencer à marcher comme s'ils étaient un peuple sans berger, des humains comme tout le monde, sans roi, alors que tu es le Dieu Tout-Puissant. David était triste de voir que son peuple était en train de paniquer devant Goliath, alors qu'il avait un si grand Dieu, Seigneur. Jésus a pleuré dans Jean 11, lorsqu'il a vu que les gens étaient paniqués face à la mort de Lazare. Mais il a pleuré de dire, mais, en se disant, mais comment ils peuvent être dans cet état alors qu'ils ont le Dieu Tout-Puissant comme Dieu? Seigneur, aide-nous à prendre conscience de cela, que nous sommes ton peuple, nous sommes ta famille, tes enfants. Et vivre comme dans cette identification-là, Seigneur, dans cette identité, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, d'agir. Nous nous attendons à toi, toi qui produis le vouloir et le faire. Béni soit ton nom, Seigneur.